Les dessous de l'Infox. Adrien Delgrange.
19h10 à Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Démêler le vrai du faux, comprendre la fabrique d'une fausse information. Où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus dans les dessous de l'Infox.
RFI.
Juste avant de vous emmener en reportage dans les bureaux de l'AFP Factuel à Paris, un service de plusieurs dizaines de journalistes dédiés à la vérification de l'information, nous accueillons Sophie Malibaud, Grégory Genevrier pour la chronique des dessous de l'Infox. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Cette semaine, vous revenez sur cette tragédie en Ukraine, au moins 20 morts, des dizaines de disparus, des hommes, des femmes, tous civils. C'est le dernier bilan de la frappe russe sur un centre commercial à Kremenchuk. C'était en début de semaine. La Russie ne reconnaît pas ce nouveau massacre et assure avoir bombardé des entrepôts d'armement. Grégory Genevrier, une version activement relayée sur les réseaux sociaux, mais que les faits viennent démentir.
Oui, le déni s'exprime au plus haut sommet de l'État russe. Selon Vladimir Poutine, son armée ne frappe aucune infrastructure civile en Ukraine. À Kremenchuk, son gouvernement prétend avoir bombardé des entrepôts d'armement ukrainiens situés à côté du centre commercial. Et ce serait l'explosion de munitions stockées dans ces hangars qui aurait déclenché l'incendie de la galerie marchande Amstor.
Alors pourquoi cette version ne tient pas ?
Tout simplement car on a les images du missile qui a détruit l'arrière du centre commercial. Une caméra de surveillance a capturé l'impact de ce premier missile. Le deuxième missile, lui, a touché un entrepôt 500 mètres plus au nord. Les débris visibles sur les images satellites et les reportages confirment ces lieux d'impact. Une partie du centre commercial a bien été détruite par le missile et non pas uniquement par la propagation de l'incendie.
Par ailleurs, Grégory, la version dite officielle en provenance de Russie, prétend que le centre commercial était vide et inactif.
Oui, le Kremlin affirme que le centre commercial était fermé, jetant le doute sur le bilan des victimes. Cela contredit la déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, selon lequel un millier de personnes se trouvaient sur place. Seulement, on a la preuve qu'il y avait bien des gens en train de faire les courses ce jour-là. Plusieurs survivants ont témoigné, certains ont même partagé sur les réseaux sociaux leur ticket de caisse, justifiant de leur présence quelques heures avant la frappe. Des commerçants ont eux annoncé que plusieurs de leurs salariés ont été blessés ou sont portés disparus. On trouve aussi une vidéo tournée la veille par un couple d'influenceurs ukrainiens dans ce centre commercial qui était donc bien en activité.
Avec vous, Sophie Malibaud, à présent, que sait-on des équipements militaires que les missiles russes assurent avoir visés ?
Eh bien, en fait, rien du tout, puisqu'il n'y en a aucune trace. Quand Vladimir Poutine évoque les bombardements et dit « nous savons où se trouve quoi », il ne prouve rien, sa propagande ne fournit aucun indice, tout en affirmant que l'armée russe avait employé des missiles de grande précision. Des journalistes de l'agence France-Presse se sont rendus sur place après l'attaque. Ils ont visité les bâtiments derrière le centre commercial, là où est tombé le deuxième missile. C'est une fabrique d'engins de chantier. Ils n'y ont pas trouvé de matériel militaire. Les images de la télévision française LCI montrent du matériel servant à la réparation des routes et une employée témoigne.
Il n'y a pas de munitions, 100% sûr, 200% même. Ici, nous faisons des engins pour réparer les routes.
Les employés sont en train de ramasser les débris suite au missile qui est tombé juste derrière dans l'usine. Lorsqu'on leur demande est-ce qu'il y avait des armes ici, ils nous répondent non.
Extrait de ce reportage diffusé sur cette chaîne française LCI. Sophie, dites-nous comment ces infox se propagent-elles sur les réseaux ?
Alors, on observe une sorte de ruissellement des infox du haut vers le bas, au sommet de la pyramide, la propagande du Kremlin, les déclarations officielles du président et du ministre de la Défense, des propos ensuite repris par les ambassades qui s'appuient également sur le site russe War on Fakes, une officine de désinformation lancée juste à la veille de l'invasion russe sous l'apparence d'un site de fact-checking, mais qui en fait ne relaye que des infox. Le tout est repris sans plus de précaution, sans vérification, par la twittosphère pro-Poutine, que n'embarrassent absolument pas les preuves fournies sur les circonstances réelles du bombardement.
Ce sont donc bel et bien des cibles civiles qui ont été visées.
On peut dire ça, les missiles sont bel et bien tombés sur des bâtiments civils. À Kremenchuk, on est à 200 km du front. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'armée russe frappe des cibles non militaires. La veille même, un quartier résidentiel de Kiev était bombardé. On était en pleine séquence diplomatique avec les sommets du G7 et puis de l'OTAN. Des diplomates russes sont allés jusqu'à parler de provocation ukrainienne et de mise en scène, comme ils l'ont fait d'ailleurs les fois précédentes pour Boutcha, Kramatorsk ou encore le théâtre, la maternité de Mariupol, le théâtre de Mariupol. En réalité, les preuves de crimes de guerre contre les civils s'accumulent.
C'était Sophie Malibaud, Grégory Genevrier. Merci à tous les deux. La chronique des Dessous de l'Infox à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
Je suis Caroline Taïx, je travaille à l'AFP, je suis éditrice pour l'Afrique francophone au fact-checking.
Et vous ?
Et moi c'est Marin Lefebvre, je suis journaliste au fact-checking pour l'Afrique francophone à l'AFP.
RFI, l'émission Les Dessous de l'Infox, aujourd'hui en plein cœur de Paris, au siège de l'agence France Presse. Et on est devant une plaque historique.
Exactement, alors je vais vous la lire. Donc il y a écrit « En hommage au petit groupe d'hommes, journalistes et universitaires résistants qui le 20 août 1944, dans Paris qui se libérait, ont investi l'immeuble de l'agence Havas, s'élevant à cet endroit et ont diffusé pour tous les journaux libres la première dépêche d'une agence de presse devenue ce jour-là l'AFP. » Et donc voilà, c'était la première dépêche de l'AFP, c'était en 1944, juste à la Libération donc de Paris. Il y a cette plaque qui commémore ça juste à l'entrée de l'agence.
On vient vous voir aujourd'hui pour comprendre une déclinaison de l'agence France Presse, l'AFP Factuelle. En quelques mots, avant d'aller visiter avec vous les locaux, comment est née l'AFP Factuelle ?
L'AFP Factuelle, c'est tout récent, c'est né en 2017. Donc quand on compare à 1944, évidemment, là on n'est pas du tout sur la même échelle du temps. C'est né en 2017 parce qu'il y avait l'élection présidentielle française. Juste avant, il y avait eu l'élection présidentielle américaine qui avait donné lieu à une grosse vague de désinformation. Et donc c'est comme ça, avec une toute petite équipe, que l'AFP Factuelle est née. Et maintenant, ça a énormément grossi, on est partout dans le monde. Et l'AFP fait partie des leaders en termes d'investigation numérique. Nous sommes au troisième étage, j'ouvre la porte et là c'est vraiment le poumon de l'agence. Il y a la rédaction en chef France, la rédaction en chef Monde, il y a la photo, la vidéo, tous les services les plus importants de l'agence. Voilà, c'est un grand plateau qui donne sur la place de la Bourse, donc on est vraiment au cœur de Paris.
Les dessous de l'Infox sur RFI.
Là c'est le fact-checking.
Là
c'est ici que ça se passe.
Caroline Taïx pour l'AFP Factuelle, expliquez-nous comment vous débusquez ces fausses informations avant de les expliquer sur votre site internet.
Finalement, l'investigation numérique, ça repose quand même énormément sur de l'humain. Donc nous, en Afrique, on a une dizaine de fact-checkers répartis sur le continent, aussi bien anglophones que francophones. Et donc, ils sont sur le terrain. Donc, ce sont eux en premier quand même qui voient l'actualité d'abord. Et souvent, l'actualité génère aussi de la fausse information. Donc, ils sont sur le terrain, ils voient la fausse information arriver. Ils sont sur les groupes WhatsApp, par exemple. Donc, ça peut arriver comme ça. Ça, c'est une chose. Et puis, on suit évidemment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on suit certaines pages, on suit certains comptes qu'on a déjà repérés parce qu'ils diffusaient de la fausse information. Et après, on a un partenariat aussi avec Facebook. Et donc, Facebook a mis à notre disposition un outil, CrowdTangle, qui nous permet de repérer assez bien les publications virales et potentiellement fausses. Et donc, c'est à partir de tout ça que, voilà, on a une réunion le matin pour toute l'Afrique à 10h30. On se dit, alors ça, on le fait, ça, on le fait pas, en fonction de la viralité, en fonction de la dangerosité de ce que ça veut dire, cette fausse information. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que les gens peuvent le croire? Est-ce que les gens le croient? Ou est-ce qu'on fait juste de l'humour autour de ça? Donc il y a plusieurs critères qui font qu'à partir de ce qu'on voit circuler, on fait un fact-check derrière ou pas.
Justement, en l'occurrence, en quoi consiste le fact-checking, donc la vérification d'informations, une fois que vous avez identifié cette fausse information?
Alors donc, on identifie la fausse information et à partir de là, l'objectif est de prouver que c'est faux. Et alors c'est un travail totalement différent du travail journalistique habituel où on rapporte quelque chose en se disant que les gens qui nous lisent nous croient par défaut. Là tout à coup, quand on fait du fact-checking, c'est un peu la démarche inverse. On doit prouver, on doit faire toute une démonstration avec plusieurs éléments pour prouver que la publication est fausse. Donc ça va d'interviews à utiliser des outils numériques numérique. On utilise aussi beaucoup notre production à nous, à l'AFP. On s'appuie énormément sur nos dépêches. On s'appuie sur nos photos, par exemple, quand on voit que beaucoup de nos photos à l'AFP sont utilisées pour avec des fausses affirmations. Elles sont décontextualisées. Donc, on prouve que cette photo, elle vient de chez nous et qu'elle a été prise dans un autre contexte. Voilà. En résumé, il y a plusieurs moyens de prouver qu'une information est fausse. Et donc, notre objectif, c'est quand même de convaincre nos lecteurs, évidemment, de faire attention à la publication qu'ils ont partagée et de les convaincre que c'est faux, quoi.
Depuis que l'AFP Factuel a été créé, donc en 2017, observez-vous une recrudescence des fausses informations ou alors depuis que vous travaillez dessus, de fait, vous en trouvez davantage ?
En tout cas, clairement, là, il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas dire si actuellement il y a une recrudescence, je ne pense pas. En tout cas, c'est un phénomène planétaire, ça c'est sûr. Et puis ça suit quand même pas mal l'actualité. On voit donc que sur le Covid, donc, il y a eu cette pandémie qui s'est installée et il y a eu une autre épidémie au même moment, c'était vraiment l'épidémie de la désinformation. Sur la guerre en Ukraine, c'est exactement ça. En fait, il y a deux choses parallèles, quoi. Il y a la guerre sur le terrain et à un moment la guerre de la désinformation aussi. Donc, il y a certains à-coups comme ça dans l'actualité qui suscitent beaucoup de désinformation. Voilà. Mais de toute façon, là, ce qu'on voit, c'est que vraiment, c'est installé maintenant, cette désinformation sur les réseaux sociaux. Et même en dehors de l'actualité, ce qu'on repère beaucoup, nous, en Afrique, c'est qu'on a beaucoup aussi de sujets santé et qui sont très viraux. C'est-à-dire que ce sont des publications qui rapidement font des milliers de partages. Alors avec des remèdes miracles pour soigner une fois le diabète, puis après ça sera l'infertilité, puis après ça sera pour soigner des morsures de serpent. Voilà, donc c'est clairement, dans le contexte africain, c'est probablement la difficulté de l'accès aux soins dans certains endroits. Et donc il y a des remèdes un peu miracles comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux et ça peut être dangereux, évidemment. Donc là, on se sent quand même assez utile sur ces sujet-là en disant, en interviewant des médecins et en disant non, c'est faux en fait. Et surtout ne prenez pas ce remède-là parce que ça, non seulement ça peut être dangereux pour votre santé, vous pouvez perdre du temps, vous diagnostiquez pas la maladie, vous ne prenez pas en charge pendant ce temps. Donc voilà, une spécificité de l'Afrique peut-être. Mais sinon, le phénomène est planétaire.
Le fruit d'un travail qui est donc diffusé sur Internet, exclusivement, accessible à tous, gratuitement.
Absolument. Je vous encourage alors en français à aller sur notre site AFP Factuel et comme ça vous verrez tous les fact-checks que l'on peut faire. Il y a une rubrique Afrique, donc c'est accessible tout à fait gratuitement et simplement en fait.
Y a-t-il pas une ironie du sort quand vous nous dites que ce métier est finalement assez récent alors que la base du métier de journaliste est de vérifier l'information ?
Oui, alors on peut penser que c'est paradoxal et de fait c'est pas tout à fait la même manière de travailler au quotidien parce que là on part de quelque chose qui est faux et on prouve que c'est faux en fait, tout simplement. Alors qu'habituellement quand on est journaliste, on est sur le terrain, on rapporte une information qu'on en juge vraie, donc c'est une démarche assez inversée. Mais l'objectif est le même quand même. L'objectif c'est quoi ? C'est le travail sur l'information, c'est une information vérifiée, juste, pas manipulée. Donc c'est quand même les mêmes réflexes, hein, évidemment. Les fact-checkers sont des journalistes et ça doit être des journalistes solides, bien formés et convaincus de l'importance de leur métier, quoi.
Avec Marin Lefebvre à présent dans l'émission Les Dessous de l'Infox, nous sommes devant votre ordinateur, votre outil de base pour débusquer les fausses informations.
Oui, alors voilà, exactement. Donc c'est à partir de là, en général, on a deux écrans, voire trois. Et en fait, là, je suis donc devant une page Facebook qu'on a repérée hier, en fait. Et donc c'est une page Facebook qui relaie potentiellement une fausse information au sujet des tensions entre la RDC et le Rwanda. Et donc là, l'affirmation, c'est selon une source de confiance, lors de la dernière incursion des militaires rwandais sur le sol congolais au nord Kivu, le Rwanda a perdu donc plusieurs officiers et militaires. Et en fait, cette publication, on voit là, quand on descend un petit peu sur la page, elle relaie plein de photos. Et c'est des photos donc, qui sont un peu choquantes.
Vous pouvez nous les décrire ?
Bien sûr, c'est des photos de cercueils. Donc en fait, il y a plusieurs dizaines de cercueils blancs qui sont fermés avec des gens qui s'affairent autour. Et donc la première réaction, évidemment, quand on est un internaute, c'est de se dire, c'est très choquant, il y a l'air d'avoir plusieurs dizaines de corps. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et en fait, on se rend compte, nous, quand on voit ça, on se dit, on a la puce à l'oreille, on se dit, est-ce que ces photos montrent bien la réalité que cette publication est en train de décrire ? Et en vérité, donc nous, quand on voit ça, notre premier réflexe, c'est de faire, en fait, très simplement, beaucoup de gens peuvent le faire, hein, très simplement, un clic droit, et de se dire, en utilisant une application qui est co-développée par l'AFP qui s'appelle InVid, de faire des recherches inversées, des recherches d'images inversées sur plusieurs moteurs de recherche. Donc on connaît évidemment un des moteurs de recherche les plus connus, c'est Google, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres moteurs de recherche sur lesquels il est possible d'en fait de rentrer une image pour voir si elle a déjà été utilisée sur Internet. Donc on a Google, comme je le disais, mais on a aussi Yandex qui est un moteur de recherche russe, Bing, Tinai, Baidu, qui est un moteur de recherche chinois. Donc on clique, et là ça nous ouvre plusieurs onglets, et en fait, on voit qu'une des photos donc, partagées par cette publication, on la retrouve par exemple dans cet article du média canadien The Globe and Mail, qui en fait, quand on descend, voilà, on voit, il y a plusieurs photos, et là on tombe sur la photo qui est partagée par la publication Facebook, et on voit que la légende, c'est une légende à propos du génocide rwandais en 2019. Donc rien à voir en réalité avec ce que la publication semble affirmer. On ne parle même pas du fond de ce que la publication évoque. On parle de vraiment l'utilisation d'une photo qui est décontextualisée pour faire croire à des internautes quelque chose qui n'est pas forcément vrai.
Et à partir de là, vous allez l'expliquer ?
Exactement. En fait, là, à partir de là, on voit que donc sur cet article canadien, il y a un crédit, une légende. Cette photo montre quelque chose qui a à voir avec le génocide rwandais. Et il y a un crédit, ici, il s'avère que c'est une photo de l'AFP. Donc en fait, c'est une photo qui vient de chez nous. Et là, très facilement, on va aller dans la banque de photos de l'AFP, retrouver la photo, prendre évidemment une capture d'écran de l'image pour montrer bien aux internautes qu'on ne ment pas, que oui, en fait, la photo est bien dans notre banque d'images à nous. Et ensuite, on va expliquer, voilà, exactement ce que je viens de vous dire. On a trouvé la photo ici, on a fait une recherche d'image inversée, on l'a retrouvée sur ce média qui est un média sérieux, et ensuite, on l'a retrouvée dans notre banque de photos à nous. Et donc, c'est comme ça qu'on authentifie le fait que non, ce n'est pas une photo qui vient juste d'être prise et qui montre les tensions entre la RDC et le Rwanda.
Il y a un aspect aussi pédagogique dans le site de l'AFP où vous expliquez en fait aux internautes la manière de ne pas se faire avoir par une fausse information.
Exactement. Alors justement, j'encourage tous les auditeurs à aller à nous suivre, à suivre la page Facebook d'AFP Factuel parce qu'il y a des courtes vidéos, notamment 5 minutes pour apprendre à faire de la recherche d'images inversées. Alors c'est très simple, on voit des images circuler sur Internet et à un moment on se dit tiens mais c'est bizarre cette photo, j'avais l'impression de l'avoir vue dans un autre contexte. Eh bien regardez cette vidéo et en 5 minutes, vous apprendrez tout simplement à vérifier que cette image est utilisée, n'est pas décontextualisée.
Une forme d'autocritique aussi, j'ai vu qu'il y avait un onglet correction que vous mettez en ligne.
Absolument. Nous, on doit être totalement transparent, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas se permettre de faire des corrections en cachette. Donc, bon, on l'assume, l'erreur est humaine, hein. Ça, clairement, on n'est pas parfait, mais par contre, on fait parfois des corrections et on l'affiche comme telle, quoi. Et on explique notre démarche de pourquoi on a corrigé, de pourquoi on s'est trompé. C'est une partie importante aussi.
Vous subissez des pressions, quelles qu'elles soient, de par le fruit de votre travail ou pas ?
Alors ça, je dirais que ça dépend des pays. Alors l'équipe France, ça peut être sur les réseaux sociaux où parfois c'est un peu dur, ils se font critiquer assez vivement, d'autant plus que les fact-checks sont signés. En Afrique, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour certains fact-checkers, oui, il y a eu des moments très difficiles. Donc on fait quand même attention à protéger nos fact-checkers. Mais en effet, ils sont en première ligne, ils sont très exposés. Et c'est compliqué, hein, parfois, de dire ce que vous dites, c'est faux. Et nous, on l'explique noir sur blanc, sur Internet, c'est faux. Et il ne faut pas partager cette publication parce qu'elle est fausse. Donc c'est compliqué. En effet, ça peut mettre en danger certaines personnes.
Et juste pour conclure... pour éviter donc de tomber dans le piège de ces fausses informations, c'est aussi prendre du temps quand on veut s'informer.
Ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais je pense qu'il y a des questions clés quand même, toutes simples. La première, c'est d'où vient cette affirmation ou cette information ? Qui la diffuse ? Et donc vérifier, il y a quand même des médias bien installés, des médias mainstream comme on dit, pour lesquels des journalistes travaillent le métier et de diffuser de l'information vérifiée. Donc en effet, il vaut mieux suivre ces comptes-là sur les réseaux sociaux que des comptes obscurs qu'on ne sait pas trop identifier. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça prend pas énormément de temps finalement, mais d'où vient l'information, c'est la question clé.
Un entretien réalisé dans les bureaux de l'AFP Factuel à Paris. Merci à Caroline Taïx et Marin Lefebvre. Ainsi se referme pour cette saison Les Dessous de l'Infox. Une saison qui se termine, l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer Les Dessous de l'Infox. Coordination et documentation, Florence Ponce, Sigrid Azeroual, Déborah Lepage. Réalisation, Hélène Avril, Claude Battista et Diego Tenorio. Rédaction en chef, Frédéric Misselin, Patrick Adam. Les Dessous de l'Infox, une émission initiée par François Bernard. Enfin, sachez que vous retrouverez derrière ce micro Sophie Malibaud dès le vendredi 8 septembre prochain pour une nouvelle émission.